1968, après l'annulation du projet de Lyon-Grenoble, qu'on a commencé à se dire, alors, au niveau des pouvoirs publics, c'est-à-dire en très haut lieu, que peut-être il faudrait faire une expérience avec l'aérotrain. Il faut ajouter que, je ne sais pas trop pourquoi, Bertin avait tapé dans l'œil de M. Pompidou, qui a beaucoup poussé les services compétents à aider à cette opération. Et on peut se demander si parfois ça n'a pas été au contraire pour Bertin une mauvaise chose de se sentir trop propulsé vers l'avant et de ne pas tenir compte suffisamment des problèmes que l'aérotrain posait, parce qu'il posait vraiment beaucoup de problèmes. Donc la création d'Aéroport en 1972 avait pour but de demander à la SNCF et la RATP de prendre en charge l'étude et la construction d'une ligne Défense-Cergy après qu'on ait eu repoussé tous les projets de liaison avec les aéroports, puisqu'il y avait des projets de liaison Paris-Orly, Paris-Roissy, Roissy-Orly par Joinville, etc. Enfin, il y a eu des tas de projets qui ont tous été abandonnés.
Alors rappelons que le choix a été fait ce matin et que le comité restreint réuni à l'hôtel Matignon a choisi de relier la Défense à la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et que maintenant l'aérotrain sera bientôt prêt à fonctionner sur cette ligne. À quelle date à peu près,
monsieur l'ingénieur ? Eh bien, j'ai cru comprendre, car je suis comme vous, j'ai encore peu de détails, mais je crois que c'est de l'ordre de 2 ans et demi à 3 ans maximum. Mais il faut bien entendu ajouter à cela les délais d'acquisition de terrain.
4-5 ans.
Oui, c'est ça.
Et la décision qui est prise aujourd'hui est quand même importante, et vous l'avez dit vous-même, il est important donc qu'on se décide pour une ligne ou pour une autre, et cela d'autant plus qu'aujourd'hui, des Américains, et pas des moindres, le maire de Los Angeles et le patron du port de Los Angeles sont ici, chez vous, et que vous leur montrez aujourd'hui ce qu'est la ligne d'aérotrain au nord d'Orléans sur la ligne de Chevilly.
C'est cela. D'ailleurs, si vous voulez, ils sont venus, ils devaient venir depuis un certain temps, et le maire a profité d'un autre voyage pour s'arrêter spécialement et pour venir se rendre compte par lui-même de ce qu'était l'aérotrain, étant donné qu'il y a une ligne qui est projetée dans la ville de Los Angeles depuis maintenant près d'un an et demi, et pour laquelle l'aérotrain a les plus grandes chances. Alors nous l'emmenons d'abord à Orléans, bien sûr, mais nous l'emmenons également voir passer l'autre véhicule électrique de Gometz, qui, comme vous le savez, ne fait aucun bruit ni aucune vibration, qui donc au point de vue environnement se place bien.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler les caractéristiques du véhicule qui sera utilisé en France ?
Eh bien là, le premier qui sera utilisé en France sera donc un véhicule tout électrique, sustentation et propulsion électrique, car c'est un système suburbain. Et le système à propulsion par turboréacteur ou turbine ou turboréacteur est réservé aux liaisons interurbaines.
Mmh. Vitesse 200 km/h toujours ?
Celui-là, c'est 200.
Et combien de places ?
Eh bien, le véhicule, l'élément moyen sera de 80 places.
Et à ce moment-là, on a demandé à la Société de l'aérotrain de nous présenter son projet. Alors c'est là qu'on est tombé des nues, parce que le projet de l'aérotrain, c'était, si je puis dire, un trait de crayon sur une feuille de papier. Alors évidemment, chaque fois qu'on disait « oui, mais attention, qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre ce problème ?» Il n'y a pas de problème. Enfin, c'était l'équipe qui était autour de Bertin à ce moment-là était un petit peu trop. Il n'y a pas de problème. Il y a toujours des problèmes. Enfin, il y a toujours des problèmes, surtout quand il s'agit de techniques aussi nouvelles, puisque tout était nouveau. Le système de signalisation était nouveau, le système d'entraînement était nouveau, l'infrastructure était nouvelle, l'aiguillage était nouveau. Alors tout ça, bon, on a travaillé pendant 2 ans à résoudre tous ces problèmes, tous ensemble les uns après les autres. Et on peut dire qu'en 1974, sur le plan technique, on était paré. Alors donc, en juin 1974, on signe ce qu'on appelait le contrat d'engagement global, avec l'aval donc des pouvoirs publics, c'est-à-dire qui a été signé de tous les ministres qui étaient compétents dans cette affaire, naturellement, ministre des Transports, ministre des Finances, etc. Alors le ministre des Finances, à l'époque, c'était Monsieur Valéry Giscard d'Estaing. Et alors il s'est trouvé donc que Monsieur Georges Pompidou est décédé à ce moment-là. Bon, une période de vide, si je puis dire, politique. Et puis, Giscard d'Estaing a été élu président de la République. Et alors, l'un de ses premiers actes, ça a été d'annuler ce fameux contrat.
Qui venait d'être signé.
Qui venait d'être signé.
Et pourquoi ?
Bien, pourquoi, on ne sait pas très bien. On peut se demander si, d'abord, ce qui est très classique en France... quand on arrive dans un poste, on commence par démolir ce qu'a fait le précédent. Je sais pas si c'est seulement ça.
Alors pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a jamais marché?
Ça a marché, oui. Et ça a très bien marché.
Mais ça a été un échec quant à l'exploitation.
Quant à l'exploitation, ça a été un échec, c'est vrai, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que on n'a pas choisi le mode effectivement lié au coussin d'air et à la haute vitesse. On a choisi Cergy, Paris, la Défense, qui était une exploitation extrêmement difficile à faire, parce que en suburbain, si vous voulez faire un aérotrain suburbain, chaque ville que vous traversez demandera à s'y arrêter. Or, c'est contraire à effectivement l'utilisation d'une vitesse élevée. Et c'était le cas de Cergy, où il fallait s'arrêter à chaque ville. Donc, c'est essentiellement pour cette raison que, à mon avis, l'aérotrain, effectivement, n'a pas été un succès en réalisation économique.
Puis il y avait un certain désintérêt de la part des entreprises de transport public.
Alors, absolument, absolument, si vous voulez. Monsieur Bertin a été obligé d'accepter Cergy. Bon, on l'a accepté et on a essayé de faire au mieux pour Cergy. Aussi bien la SNCF que la RATP ont prétendu que nous n'étions pas prêts à faire quelque chose d'opérationnel. C'est vrai qu'effectivement, notre véhicule était prototype, mais en ce qui concerne Orléans, c'était quand même très près d'une réalisation avec du type aéronautique. Or, quand on a voulu faire Cergy, aussi bien la RATP que la SNCF a voulu en faire un véhicule sur les bases de ce qu'ils savaient faire, c'est-à-dire quelque chose de lourd. Et je vais vous citer une petite anecdote. On a discuté à ce moment-là pendant plusieurs jours sur un robinet qui voulait en bronze et vraiment lourd, alors que nous avions des solutions aéronautiques beaucoup plus légères et fiables. Donc, il y avait manifestement une idée de trouver un moyen de ne pas accepter la technique que l'on avait. Et ça, c'est une raison aussi un peu de l'échec de l'aérotrain.
Il y a un peu de rancœur ?
Non, c'est un peu une frustration, oui. Ouais. On s'est bien amusé, on y a bien tous cru. Bon, on n'a pas très bien compris sur le moment ni maintenant les raisons de l'échec, raisons de l'échec commercial, s'entend. Bon, il y a des raisons politiques, des raisons de stratégie de grands groupes, des raisons, je sais pas, oui. de trouilles, de remise en cause incessante des décisions qui sont prises par le prédécesseur. Ça s'est dit dans un article d'un de ceux qui nous combattaient un peu à l'époque, d'un des copains de Bertin. Mais c'est vrai que en France, on a la manie de remettre sans arrêt en cause, de brûler ce que les autres ont adoré cinq minutes avant. C'était le gouvernement qui fait la même chose que le précédent, mais qui critique ce qu'a fait le précédent, et ainsi de suite. Et on casse le jouet qu'on avait la veille. très souvent, ne s'est pas allé jusqu'au bout de nos réussites techniques. Désolé, Concorde, c'est une belle réussite technique. On en a fabriqué combien, 9 ou 11? Il n'y en aura jamais un de plus. Ça fait un flop derrière, alors que c'est un merveilleux avion. J'espère que le TGV aura un plus grand succès commercial à l'étranger.
Il y a un point quand même que je voudrais préciser, c'est que l'aérotrain ne comportait ni fer ni cuivre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de rail et il n'y avait pas de moteur électrique, en gros. C'est-à-dire que les grosses sociétés faisant
du fer et du cuivre,
n'étaient
pas concernées par cette évolution technique. Voilà.
Non, c'est sûr qu'il y a eu une part de lobbying négatif dans l'échec de l'aérotrain.
Le comité d'entreprise de la Transat se réunit cet après-midi. Les membres de ce comité entendront la décision des dirigeants de leur compagnie d'arrêter l'exploitation du France. Cela au lendemain d'une autre décision prise par le gouvernement, celle de renoncer à la mise en service de l'aérotrain sur la ligne Cergy-Pontoise-La Défense. Après Mercure, après France, c'est donc l'aérotrain qui subit les conséquences du plan de restriction gouvernementale. Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac ont su débloquer hier des crédits pour les agriculteurs, nous venons en parler, qui, on l'a vu, trouvent cela un peu insuffisant, mais enfin, ils sont d'une rigueur impitoyable pour tout ce qui pourrait passer pour une dépense de prestige. Dans le cas de l'aérotrain, à la place d'une technique nouvelle qui apparemment n'est pas au point, on choisira, avec Valéry Giscard d'Estaing, pour les banlieusards de la ville nouvelle, un mode de transport éprouvé, le train. Alors Jean Bertin, je suppose que vous êtes déçu par la décision du gouvernement.
Mais je suis déçu évidemment, être d'accord sûrement pas. Car vous avez dit un mot tout à l'heure contre lequel nous nous battons, qui est contre tous nos efforts depuis 14 ans, c'est le mot prestige. Si l'aérotrain a été poussé, et s'il sera encore poussé, c'est parce qu'il aurait été moins cher qu'un transport équivalent sur le même trajet. Je dis bien un transport équivalent.
Oui, mais alors, est-ce qu'il est prêt, votre aérotrain?
Mais oui, il est prêt. Est-ce que vous pensez qu'un projet est prêt quand un groupement d'entreprises qui comprend non seulement la société de l'aérotrain, un groupe en pain chenèdre à la dimension que vous connaissez et les grands travaux de Marseille, ont remis au gouvernement, signé un contrat avec un engagement ferme et forfaitaire, non seulement de construire la ligne, mais d'assurer sa fiabilité.
Mais est-ce qu'il est logique de mettre sur une ligne comme Cergy-Pontoise un mode de transport rapide, 170 ou 180 km/h, je crois, alors que finalement on s'arrête assez souvent?
Et non. Si vous voulez, l'idée, je dois préciser ceci qui est une constante de mon action. La décision de réaliser une ligne de transport public est du pouvoir politique. Le pouvoir politique décide oui, il décide non, nous nous inclinons. Mais je ne peux que confirmer que pour le problème tel qu'il avait été posé, c'est-à-dire faire en sorte qu'une ville nouvelle soit prête du noyau avec lequel elle a à vivre, eh bien, le type de liaison répondait exactement au problème posé. Car nous prenons la vitesse en 2 km et demi, 3 km. Par conséquent, nous avions sur les 24 km, nous en avions 18 à vitesse de 180 km.
Et vous gagnez 5 minutes seulement sur le train, d'après les chiffres qui vont nous être...
Oui, mais si vous voulez, ça dépend à quel moment. En 1971, les chiffres étaient de 40 minutes pour aller à la gare du Nord. Et nous faisions moins de 10 minutes.
On pensait installer des aérotrains en Suède, au Brésil, en Argentine, au Canada, aux États-Unis, tout partout. Le seul projet accepté en France a capoté brutalement en 1974. Jean Bertin est mort fin 1975. Le découragement était à peu près complet chez les défenseurs de l'aérotrain. Depuis, on a tenté de valoriser la ligne Rouen-Saran près d'Orléans. Char à voile, petit véhicule à moteur du LM. On envisageait un musée de l'aérotrain, ça n'a pas marché non plus. En mars 92, l'aérotrain I-80 a mystérieusement brûlé dans son hangar de Chevilly, dans le Loiret. Un engin qui vole à 3 mm du sol, ça attire les catastrophes. Dans ce monde, il faut choisir soit on vole, soit on roule. À vouloir défier les éléments, on touche au grand tabou primitif, on provoque les puissances maléfiques. Souvenirs bizarres, un peu aigres.
Un dimanche matin, 6 heures du matin, un jour d'élection, les élections régionales. Il a brûlé pratiquement en entier. Le feu a dû couver pendant très longtemps, puisque donc c'était enfermé dans un hangar, ça ne s'est pas vu tout de suite. C'est quand les flammes ont dépassé le sommet du hangar que bon, les gens ont commencé à appeler les pompiers. Mais l'incendie était vraiment très, 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 très fort déjà. Plus de ça, il y avait des portes à chaque extrémité du hangar, et il y en avait une qui avait été ouverte. Donc quand ils ont ouvert la porte de devant, ça a fait appel d'air, et ça n'a fait qu'amplifier l'incendie. Et l'aérotrain était réalisé en système aéronautique, c'est-à-dire qu'il était réalisé en duralumin. Et c'est un métal qui brûle très très bien, qui pétille énormément et qui fond très facilement. Et là, l'aérotrain a complètement disparu. Il y avait 3 départs de feu dedans. Donc ce n'est pas un incendie accidentel. De plus, il a été incendié avec du kérosène. Et le kérosène, on n'en trouve pas dans le commerce.
Ça donne un peu l'impression d'être un vestige d'une civilisation perdue.
Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, mais je vois qu'on a fait un chemin pédestre maintenant, parce que sinon on ne pourrait pas passer là. Hein.
Ouais.
Je sais pas si, ce qu'ils ont fait, si c'est une piste cyclable.
Vous souhaiteriez que ces vestiges soient valorisés maintenant ? Ici à Gomet,
ouais, j'aurais bien aimé, notamment la machine, les machines à l'échelle 1,5, puisqu'on n'a plus que celle-là. Malheureusement, celle d'Orléans a été brûlée aussi. Et ce qu'il faut garder, c'est la voie d'Orléans. Bon, celle-ci, à la limite, on garde un morceau de rail pour se rappeler quand même des premiers essais d'aérotrain. Ça me paraît très logique. Mais enfin, bon. Mmais c'est surtout l'Orléans. L'Orléans, il ne faut pas oublier que c'est une voie qui est encore en super état, qui peut servir demain. Si par exemple un étranger nous commandait des essais aérotrain, on pourrait demain faire des essais sur la voie d'Orléans. Ça va finir par s'oublier. Il y en a qui cherchent on cherche quand même à oublier aussi ça peut arranger beaucoup de gens quoi, d'oublier l'aérotrain.
Que l'aérotrain dérange, c'est incontestable. Dire que les gens aimeraient aujourd'hui voir réapparaître ça, je crois que ce serait un peu excessif. Mais c'est vrai que l'aérotrain, 20 ans ou 25 ans après, intéresse et agace toujours. D'ailleurs, votre présence le montre. C'est une aventure assez extraordinaire, mais qui est une aventure sans fin. C'est-à-dire que le potentiel technique a été démontré. Aujourd'hui, personne ne conteste la validité technique du véhicule à coussin d'air. Par contre, sa validité économique n'a jamais été démontrée, puisqu'il n'a jamais eu l'occasion de faire ses preuves. Donc ça reste un monument inachevé, qui fait qu'on a des vestiges à droite et à gauche, et qu'on ne peut même pas dire que ça ne marchait pas, puisque ce n'est pas vrai. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a pas eu lieu.
Le train numéro 4010.
Bonjour monsieur, je voudrais un billet d'aérotrain pour Orléans s'il vous plaît. Deuxième classe. Fumeur, hein.
Je vous demande pardon.
Orléans par aérotrain s'il vous plaît. Deuxième classe, fumeur. À quelle heure c'est le prochain?
Un instant s'il vous plaît. Allô, la sécurité. Il faudrait 3 infirmiers baraqués et une camisole neuve rapidement. Guichet 34.
C'était l'aventure de l'aérotrain avec Martial Perdereau, Daniel Hermis, Alain Jacques, Maurice Berthelot, Philippe Bertin, Joël Boissonnet, André Mathieu, Pierre Patin et les voix de messieurs Nguyen, Jean Bertin, Vladimir Lazareff, archives Anthony Leboffre, Françoise Lambert. L'aventure de l'aérotrain Prise de son, Robert Caden, Patrice Klein. Mixage, Olivier Dupré, Nathalie Fado. Réalisation, Ghislaine David. Olivier Chomel, Laurent Pironti, Nuit Magnétique, bonsoir.
A été diffusée pour la première fois sur France Culture le 2 décembre 1997.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Que serait un tour de France sans une visite au château de la Loire, qu'il soit posé au bord du fleuve ou en retrait de quelques kilomètres? Et que serait un tour de France, que vaudraient des vacances en France, sans un son et lumière? Son et lumière au château? Oui. Et le village qui donne son nom au château, nous nous y rendrons également, ainsi que les auditeurs, brièvement, s'y rendaient, le 15 juin 1962, c'était sur la chaîne parisienne.
Édition spéciale, une émission de reportage et de documents du journal Parler.
Jean Bart.
Jean Bart.
Jean Bart.
Que ce nom sonne comme un écho au fond des bois. Jean Bart.
Il était une fois un magicien qui avait légué sa puissance et son art à son petit-fils. Il avait fort bien fait, puisque c'est avec les yeux de son grand-père que celui-ci aime à venir rêver devant ce château royal dont la République lui a confié la garde.
Monsieur Paul Robert Houdin, ce magicien dont il était question il y a quelques instants, c'est vous. Voulez-vous nous donner, nous dire ce qui vous a donné l'idée de créer les spectacles Son et Lumière?
Eh bien, j'aime mieux vous parler du futur plutôt que du passé. Et je pense que vous savez comme moi que les spectacles Son et Lumière, dès leur origine, dès qu'ils ont été créés à Chambord en 1952, se sont propagés d'abord dans toute la France, puis en Afrique, puis en Asie, et maintenant ils vont se transporter aux États-Unis.
Mais je m'excuse de vous interrompre, j'ai ouï dire tout à l'heure que vous alliez partir bientôt pour lancer des spectacles Son et Lumière à travers le monde. Voulez-vous nous en parler?
Bien, je peux vous parler de deux spectacles. Je pars effectivement demain pour Lisbonne, où je vais créer un spectacle au monastère des Hieronymos, et dans une huitaine de jours, avec toute une équipe française, nous allons mettre au point à Philadelphie, à l'Independence Hall, le premier spectacle Son et Lumière qui aura lieu aux États-Unis et qui sera inauguré le 30 juin prochain par le président Kennedy.
Ici, au cœur de cette couronne de forêt, François Ier a aimé. Charles Quint a soupiré d'envie. Louis XIV a écouté Molière. Quant à Thibault le tricheur, comte de Blois, il poursuit toujours sa chasse infernale et éternelle.
Quittons maintenant un peu ce château de Chambord pour nous rendre au village de Chambord. Philippe Dreux, vous êtes le président du comité des fêtes de Chambord, mais vous êtes surtout le dernier descendant de la plus ancienne famille de Chambord. J'aimerais que vous me parliez un peu de votre village.
Eh bien, Chambord est un statut tout à fait spécial en France, puisque c'est le seul pays qui appartient entièrement à l'État. En effet, il n'y a pas que le château qui soit à l'État, la forêt de Chambord, le pays de Chambord, les fermes de Chambord, tout appartient à l'État et les habitants sont tous locataires.
Ils n'ont donc aucun bien à eux, s'il n'y a pas de propriétaire terrien, il n'y a rien, il n'y a personne qui ait quelque chose à lui.
Ils ont des biens, mais des biens immobiliers.
Des biens mobiliers, pardon. Mobiliers, bien sûr. Combien y a-t-il d'habitants ?
Il y a 360 habitants à Chambord, qui se répartissent employés des eaux et forêts, employés d'administration des beaux-arts, quelques commerçants, quelques fermiers, et un ou deux retraités, c'est à peu près tout.
Qui s'occupe, par exemple, puisque vous dites que tout appartient à l'État, y a-t-il ici, par exemple, un service de voirie ? À la mairie, avez-vous la charge de la voirie, la charge de l'entretien du village ? Comment cela se passe-t-il ?
Non, nous n'avons absolument pas la charge de la voirie, ni des chemins vicinaux. Et il y a d'ailleurs une erreur qui est trop souvent répandue. On dit que Chambord est une des communes les plus riches de France. Évidemment, c'est une commune qui est assez riche. Elle n'a pas un grand entretien à réaliser. Seulement, nous avons installé l'eau dans toutes les maisons du pays à Chambord. Nous avons actuellement un projet qui consiste à faire installer le tout à l'égout. Or, vraiment, le tout à l'égout pour un pays de 300 habitants, c'est quand même un luxe presque. Mais enfin, nous avons bon espoir de le faire. Et il y a à Chambord quatre administrations qui se partagent la gestion du domaine. Ce sont quatre ministères, le ministère des Affaires culturelles pour le château, le ministère de l'Agriculture pour la forêt et l'ensemble de la réserve de chasse, le ministère des Travaux publics pour les routes, les ponts et chaussées, et le ministère des Finances pour l'administration des domaines, les maisons du pays.
Y a-t-il de plus en plus de touristes ? Avez-vous constaté là une hausse ou une baisse des visites de Chambord ?
Non, Chambord a été presque en progression constante. Il y a à peu près 170 000 entrées payantes de jour. Et comme le château appartient à l'État, évidemment, il y a beaucoup d'entrées gratuites. Les enfants ont beaucoup de facilité, les groupes d'enfants accompagnés, etc.
Mais vous nous parliez tout à l'heure des eaux et forêts. Il y a, je crois, des réserves de chasse très importantes.
Oui, puisque le territoire de Chambord, qui représente 5500 hectares et qui est entouré d'un mur de 32 km de tour, est une réserve idéale pour la chasse. D'ailleurs, Chambord a toujours eu une vocation de chasse. Et on reprend des animaux vivants, principalement cerfs et biches et chevreuils, qui sont envoyés aux différentes fédérations de chasse en France. On fait également des battues aux sangliers, principalement des battues ministérielles. Et il y a surtout une faisanderie qui est une des plus modernes faisanderies de France, qui élève à peu près 20 000 faisans par an. Et ça donne quand même un petit peu d'activité dans la commune.
Chambord est le château qui le premier a eu le spectacle Son et Lumière. Nous savons le résultat que cela a donné. J'aimerais que vous nous parliez des projets de la municipalité de Chambord sur les fêtes que vous avez l'intention d'organiser dans ce magnifique château.
Eh bien, vous savez que Molière a représenté pour la première fois à Chambord le bourgeois gentilhomme devant Louis XIV. Et nous avons bon espoir l'année prochaine de faire une nouvelle présentation du bourgeois gentilhomme par la Comédie Française dans la cour du château et pourquoi pas devant le président de la République.
Et vous avez déjà eu des accords certains dans ce sens ou non ?
Les contacts sont déjà pris et nous espérons que tout marchera.
Ce furent les grandes heures de Chambord qui depuis lors, chaque soir d'été, racontent la belle histoire du château et font revivre le maréchal de Saxe. Chambord a trouvé avec lui un maître à sa taille.
Et
Et Louis XV lui offre au Chambord le château où règne la salamandre victorieuse.
Sire, merci. Avec Chambord, me voilà vraiment français.
L'allure de Monsieur le Maréchal de Saxe est éblouissante. Et il éblouit tous ceux...
Et
toutes celles qui le regardent.
Aujourd'hui, il veut éblouir Madame de Conti, princesse du sang, en lui offrant de la terrasse de Chambord un bien beau spectacle, l'arrivée de son régiment Saxe volontaire.
Regardez-les bien, Madame. Regardez mes escadrons de l'enfer. Ne vous fiez pas à la douceur de leur chant. Ce sont des hommes terribles.
C'était édition spéciale. Aujourd'hui, Bonjour Chambord, un reportage de Daniel Pouget.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 15 juin 1962.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
C'était un été sur France Culture. Deux après-midi de suite, Christine Goémé proposait un rendez-vous avec des sociologues, des philosophes, des historiens, afin d'aborder l'œuvre de Michel Foucault, disparu 7 ans plus tôt. Daniel Defer, Myriam Revaud-Dallonne, Daniel Rancière, Christian Jambet, Michel Perrault, Pierre Macheret, Jacques Lagrange, Arlette Farge, François Ewald, Jean-Pierre Vernant et Pierre Hadot participaient à ce deuxième après-midi que nous vous proposons de retrouver à l'instant. L'usage des sources à plusieurs niveaux, l'histoire comme objet de réflexion philosophique pour un intellectuel qui insistait beaucoup sur le fait qu'il n'était pas un historien, mais un philosophe. Première diffusion sur France Culture le 4 août 1991.
L'art de penser de Michel Foucault par Christine Goémé et Judith Dastier. Deuxième partie. Michel Foucault.
Moi, personnellement, je ne suis pas historien, mais pas historien du tout. Mon problème, c'est malgré tout un problème de philosophe. La philosophie, qu'est-ce que c'est? Sinon, en gros... Poser la question de ce que c'est que la vérité. Non pas la question quelles sont les choses qui sont vraies et quelles sont les choses qui sont fausses, mais qu'est-ce que c'est que ça, finalement? Poser la question de la vérité. Comment se fait-il que dans une civilisation comme la nôtre, tout puisse s'ordonner, ou un nombre en tout cas considérable de choses, puisse s'ordonner à ce grand partage du vrai et du faux? Alors, c'est ce problème philosophique que j'essaie d'aborder. Non pas avec les instruments de la logique, comme on l'a fait longtemps, non pas avec les instruments de la psychologie, comme ça s'est fait également, ou de l'analyse de la conscience, mais avec les instruments de l'histoire. Quelle a été la trajectoire de la question de la vérité dans notre société? Alors, c'est là où, si vous voulez, les problèmes de l'espace et des techniques de pouvoir, je les rencontre de mon côté, car il m'a semblé que, non pas dans sa totalité, bien sûr, mais pour une part non négligeable, ce grand partage du vrai et du faux cette grande organisation, ce grand impératif de la vérité, au fond, était sans doute lié à la manière dont le pouvoir s'exerçait dans notre société. D'où, si vous voulez, l'idée de regarder concrètement quelles sont les techniques que notre société se donne pour exercer le pouvoir et comment, à partir de là, à quel endroit, en quel lieu, en quel point d'articulation précisément, la question de la vérité peut jouer. En gros, comment le pouvoir est créateur de savoir.
Il n'y a pas de différence majeure entre théorie et pratique pour Michel Foucault, mais elle se déploie, peut-on dire, sur le même plan, celui de l'intervention. Le savoir n'est pas fait pour comprendre, écrit Michel Foucault, il est fait pour trancher. Une association militante comme le groupe d'information sur les prisons est donc, pour Foucault, aussi bien un instrument de connaissance qu'un foyer de pratique politique. Alors, avec nous, Daniel Defer. Daniel Rancière, vous avez participé au tout début de ce groupe d'information sur les prisons. Myriam Rovodallone, vous n'avez pas participé justement ni à cette formation, ni même finalement vous ne vous êtes pas vraiment intéressé de l'intérieur au travail de Foucault, mais par contre, vous l'avez rencontré puisque vous êtes philosophe du politique. Vous avez travaillé sur Patochka et sur Hannah Arendt. Alors, moi j'aimerais vous demander... Quel est le rôle dans le cadre du GIP et de l'époque, au fond, pourrait-on dire, des rapports que Foucault entretenait avec le maoïsme? Qu'a-t-il permis de changer dans la vision politique du monde? Et quelle fonction spécifique ce GIP a pu avoir, Daniel Defer?
Oui, c'est des rapports un peu étroits et accidentels, je dirais. Personnellement, Foucault n'était pas un homme à... s'engager dans une organisation en dehors d'un court passage au Parti communiste. Je crois qu'il n'a jamais plus de tentation pour des partis. Par contre, personnellement, moi, j'étais dans une petite cellule de la gauche prolétarienne. Au moment où la gauche prolétarienne a été dissoute, interdite, est devenue clandestine, et le seul fait de vendre le journal ou d'être surpris avec un journal dans son sac pouvait être un motif d'emprisonnement. Donc mon engagement personnel a moins été sur des thèses maoïstes générales que sur une situation particulière de répression, de clandestinité. Et du maoïsme, si vous voulez, la gauche prolétarienne avait au moins l'avantage d'être le seul mouvement marxiste qui ne se disait pas léniniste. Et donc, il écartait un élément important qui était la structure de parti dans son histoire. Et donc, pour moi, c'était quand même une des raisons idéologiques de m'y retrouver, même si ce n'est sur une circonstance très particulière que je l'ai rejointe. Et nous avions beaucoup de militants emprisonnés qui avaient fait une grève de la faim en septembre 70 pour obtenir la reconnaissance de statut politique. Il n'avait pas obtenu cette reconnaissance, une nouvelle vague d'emprisonnement eut lieu, et en janvier 71, la décision était donc prise de recommencer la grève de la faim pour obtenir ce statut. Et comme j'étais dans la cellule qui s'occupait du soutien aux prisonniers politiques, en discutant avec mes camarades de l'organisation, j'aurais proposé un petit peu, sans trop y croire, de demander à Foucault de faire une commission d'enquête sur les prisons, parce qu'on avait un peu le goût des commissions d'enquête, et moi-même j'avais été assez frappé par le tribunal populaire de Lens, organisé autour de Sartre, avec de nombreux témoignages de médecins sur la situation sanitaire des mineurs.
Et puis il y avait ce fameux mot d'ordre du président Mao, celui qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole.
Oui, alors l'enquête, moi, si vous voulez, c'était, mon goût venait d'ailleurs, venait aussi, ben, je suis sociologue d'une part, et puis j'aimais bien mes petits camarades de l'Ota Continua. J'allais souvent avec Jean Donzelot les voir travailler en Italie, en tout cas à partir du GIP, nous sommes allés souvent, et eux n'avaient pas d'établi, à la différence de la gauche prolétarienne, qui avait des militants
en usine.
Alors eux étaient plutôt à la périphérie des usines, et ils faisaient des enquêtes, ils avaient un côté plus étudiant, et ça me rappelait, moi, mon engagement du temps de l'UNEF et de la guerre d'Algérie, retrouvait un moment. Bon, et alors, comme dans les prisons, il n'était pas question de s'y établir volontairement en dehors de l'incarcération.
On avait déjà des établis,
on avait notamment Le Brie et Le Dantec et Alain Gesmard qui étaient déjà emprisonnés au moment de...
Et puis il y en avait d'autres, il y avait des militants qui étaient dans le Nord, qui étaient dans les petites prisons à travailler. Il y avait près de 200, à un moment donné, vous avez eu à vous occuper de 200 prisonniers.
Vous étiez vous-même établi, Daniel Rancière?
Ah pas du tout, non. Moi j'enquêtais aux portes des usines, j'enquêtais en particulier...
Vous étiez à la GP?
J'étais à la GP et j'enquêtais à Kremlin-Bicêtre aux portes de Géo. Et j'enquêtais auprès des travailleuses, des ouvrières portugaises, parce que j'avais séjourné au Brésil et que je parlais un peu le portugais. Elles se moquaient beaucoup de moi, mais c'était mon domaine d'enquête, la condition des femmes portugaises dans les usines de charcuterie.
Alors, il y a eu effectivement une enquête sur ce qui se passait dans les prisons.
On a eu d'abord un document qui nous venait des politiques, ce qui était pour nous des politiques, mais qui avait la condition de droit commun. Et ce document était intéressant parce qu'il donnait des pistes, il donnait aussi un lexique. Et à partir de ce document, nous avons donc décidé de rédiger un questionnaire sur les points qui nous paraissaient des points sensibles pour les prisonniers. Des points, nous reviendrons peut-être là-dessus, des points d'intolérance, mais je ne vais pas trop parler de ce concept d'intolérance qui me paraît très important. Donc, à partir de ce rapport, nous avons essayé de recenser les items et les questions clés auxquelles nous pensions qui pouvaient intéresser les prisonniers et aussi nous intéresser sur le...
C'était très important parce que, au fond, avant justement cette interdiction de la gauche prolétarienne, avant qu'il y ait des militants emprisonnés, au fond, les prisons, c'était l'umpenprolétariat, c'était toute une sous-population, disons, qui émanait dans nos esprits de la bourgeoisie. Enfin,
Je crois que le concept de l'umpenprolétariat a disparu après notre action dans le vocabulaire politique.
Hein.
Ça, c'est une chose qui est
incontestable.
Alors, vous dites justement, avant l'emprisonnement des prisonniers politiques, j'ai eu entre les mains le journal d'un détenu à la santé en mai 68. Et ça m'avait bouleversé parce que 13 mai 68 ou 12 mai 68, il dit « Aujourd'hui, j'ai vu un rat dans ma cellule ». C'est le seul événement qu'il avait noté.
C'était
vous dire la coupure.
On
les défilés passaient à côté de la santé sans même penser ajouter le moindre message. Donc il y a eu un changement considérable et je crois que c'est très important parce que les prisonniers politiques, comme le rappelait Daniel, ils étaient nombreux mais dispersés dans plusieurs prisons. Ils demandaient le statut politique. C'était difficile d'obtenir un mouvement de masse en demandant le statut politique. Hein. Et il y avait donc une contradiction de dire on se bat pour tous et on demande quelque chose qui risquait de ne pas être compris. Or, le statut politique, c'était très clair. Hein. Ce n'était pas des privilèges, c'était le droit de réunion. C'est ce que les prisonniers du FLN avaient obtenu difficilement avec beaucoup de luttes pendant la guerre d'Algérie. C'est quand même un exemple qui est encore présent pour les militants. Hein. Il y avait quand même Alain Gesmard avait été un militant important dans le soutien au FLN et il avait toute cette culture politique-là. On savait donc que le statut politique donnait des moyens de cohésion et d'action. Et puis, ça permettait aussi de relancer le sens de l'action des gens emprisonnés dans les lieux où ils avaient été arrêtés. Alors, simplement, à partir du moment où on faisait une enquête générale sur les conditions pénitentiaires, on élargissait complètement le problème. Et d'une certaine manière, et ça, dans l'esprit de Foucault, c'était très clair, on sortait du cadre de la revendication politique vers quelque chose qui était perçu par un certain nombre de militants comme beaucoup plus anarchisant.
C'est vous qui avez branché Foucault sur le GIP?
Écoutez, c'est Foucault qui a inventé le mot. C'est moi qui ai proposé à l'organisation des prisonniers politiques, l'OPP, l'idée d'aller voir Foucault. Puis après avoir proposé ça, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que... Et je n'avais plus le courage d'aller lui proposer.
Il faut dire qu'il était déjà professeur au Collège de France.
Depuis 70, et j'étais un peu embarrassé. Et mes camarades ont peut-être senti que je proposais une chose que je n'allais pas faire, et ils m'ont poussé. Et le soir même, on est allé rendre visite à Foucault, et ce sont les représentants de la gauche prolétarienne, et pas moi, qui lui vont demander s'il voulait. Et après, il m'a dit, c'est vraiment bien de m'avoir demandé cela. Tu sais que c'est ce que je voulais faire après l'histoire de la folie. Et effectivement, dans l'histoire de la folie, il y a tout un chapitre à la fin qui parle des conditions pénitentiaires, et il avait eu le projet d'un livre sur les prisons en même temps que celui sur les institutions psychiatriques.
Alors, Daniel Rancière, on a un certain nombre de documents sur cette table. Il y a notamment toutes les questions des enquêtes. Alors, c'est une enquête qui s'adresse donc aux gens qui vont visiter les prisonniers, les frères, les sœurs,
Oui,
les
c'est
femmes.
Ça. Le problème de l'enquête, c'était comment la mener. Imaginez que les prisons sont un milieu clos, il n'y a pas de communication directe. Aujourd'hui, effectivement, une organisation a pu présenter, aller dans les prisons, enquêter auprès des prisonniers. C'était absolument exclu en 71. Donc, nos pratiques militantes allaient nous servir. Il fallait essayer de faire passer ces questionnaires et faire passer, essayer de trouver, si vous voulez, des ponts ou des intermédiaires entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, il y avait d'une part les queues de prison. Les queues de prison, qu'est-ce que c'était que les queues de prison? C'était les familles des détenus qui allaient à heure fixe rencontrer les détenus au parloir et qui attendaient à la porte de la Santé, à la porte de Fresnes, à la porte de Fleury-Mérogis. Et on avait repéré ça très vite. Et donc, on a décidé d'apporter ces questionnaires avec des tracts à ces familles et d'essayer de les faire passer par les familles. Ensuite, on a mobilisé des avocats, on a mobilisé des amis et on a eu des contacts avec des assistantes sociales, avec des médecins. Et à partir de là, on a pu rentrer en communication avec des détenus et très vite, le questionnaire a circulé, mais à une vitesse qui nous a dépassés, puisque ça a commencé en février 71, et à Pâques, nous étions submergés de demandes de questionnaires, et de questionnaires remplis, et de courriers, et d'informations. Donc, les canaux se sont mis en place presque tout seuls. Mais nous avions une pratique régulière, ritualisée, nous avions chacun une prison à charge, et nous allions tous les midis, entre midi et une heure, dans les queues de prison de famille, discuter avec les familles, et familiariser aussi les familles avec la prison, parce que nous leur apportions des informations sur les prisons, ils allaient voir les prisonniers, ils ne savaient pas du tout dans quelles conditions ils étaient, les contacts étaient très difficiles, les parloirs étaient s'effectuaient dans des conditions vraiment très, très dures, et nous sommes liés à ces familles, nous avons eu des rapports, et on apprenait ce qui se passait à l'intérieur des prisons.
Alors c'est un questionnaire très concret,
oui,
très
ça concerne
intéressant.
Les conditions
on devrait publier
de
tous
vie.
Ces documents, moi je trouve. Par exemple, sur la nourriture, combien de fois par semaine mangez-vous de la viande? Réponse, 4 fois, et 2 fois du poisson. Des fruits, 3 fois, une pomme ou une orange, poire, banane, selon la saison. Alors il y a tout à fait ce genre de questionnaire, mais il y a des choses aussi sur les loisirs. Pouvez-vous entendre la radio? Non.
Oui, vous savez que les radios et les journaux ne sont entrés dans les prisons qu'après la grève de la faim des militants politiques et notre action. Parce que l'entrée de la radio et de la presse, on ne se représente pas quelle société répressive nous étions dans ces années du gaullisme.
C'était la censure de...
Mais c'est insensé. Tout
c'est pourquoi, d'ailleurs, il n'avait pas eu de contact avec 68, c'est qu'il n'avait pas la radio ni la presse.
C'est ça.
Et c'était un droit qu'ils avaient, le droit à l'information.
Ça, c'est une des premières choses que nous avons fait surgir. C'est ce fait qu'ils n'avaient pas droit à l'information, qu'en plus des peines normalement définies par la loi, il y avait tout un ensemble de pénalités non définies, infinies, puisqu'il y avait même un tribunal à l'intérieur des prisons. Enfin,
ah oui, ça, c'était très important, la discipline à l'intérieur des prisons. Alors là, nous l'avions découvert à travers les rapports et nous l'avons surtout découvert à partir des questionnaires. Il y avait une discipline, il y avait à l'intérieur, un tribunal à l'intérieur de la prison, voilà. Il y avait une prison dans la prison, le mitard. Et ça, évidemment, les prisonniers connaissaient bien ça, mais n'en parlaient jamais.
Alors voilà, le questionnaire droit. Vous a-t-on dit quels étaient vos droits en prison? Réponse, non. Une fois, j'ai posé la question au surveillant chef de T, qui m'avait répondu qu'une fois en prison, je n'avais que des devoirs envers l'administration pénitentiaire. Observation concernant le règlement, c'est une question. Réponse, oui, car il n'y a qu'un seul règlement pénitentiaire. Seulement, chaque directeur de prison fait son règlement un peu à sa façon, et c'est toujours au détriment du détenu, ce qui est une injustice flagrante. Alors, vous parliez d'intolérance.
Alors moi, c'est ça qui me
c'est
paraît
une notion importante.
Oui, je crois que Foucault a inventé. Il a dit, nous allons faire une enquête intolérance. Qu'est-ce que c'était que l'intolérance? Je vais y revenir, mais d'abord, cette enquête d'intolérance, c'est une enquête d'un type nouveau. C'est pas du tout l'enquête sociologique, bien entendu, c'est pas le reportage du journaliste qui va découvrir un ailleurs et va le décrire. C'est pas non plus tout à fait l'enquête maoïste, en réalité. Ça a à voir. Ça ressemble un peu, peut-être à l'enquête ouvrière, à l'enquête philanthropique. C'est à la rencontre des deux, et c'est encore autre chose. C'est une enquête intolérance. Alors qu'est-ce que c'est que ce mot intolérance? Moi, je trouve que c'était génial d'avoir trouvé ça. Intolérance, intolérable. C'est une enquête qui va dire ce que ceux qui souffrent une condition ne peuvent plus supporter. Ce qu'ils ont besoin d'exprimer, ce qu'ils n'ont jamais exprimé, et ce qui peut motiver une révolte, non seulement individuelle, mais collective. Et l'enquête intolérance est aussi l'enquête qu'on fait passer dans l'opinion publique, qu'on adresse aux citoyens. C'est l'enquête sur ce qu'on ne peut pas tolérer en tant que citoyen. Et c'est l'enquête qui peut mobiliser à son tour les citoyens, on ne parlait pas exactement ce langage, mais c'était cela que ça voulait dire, en leur faisant prendre conscience qu'il se passait là des choses en leur nom, qu'ils ne pouvaient pas admettre et qui allait à son tour susciter leur colère, leur révolte, leur manifestation, leur protestation. Et là apparaissait une nouvelle figure de la pratique politique, et je dirais une nouvelle figure du politique, qui jouait, donc dans la notion de tolérance, intolérance, intolérable, c'est quelque chose qui se passe au niveau de la sensibilité. C'est une nouvelle manière de sentir ce qu'on subit ou de sentir ce que d'autres subissent. Et c'est ça qui a suscité des choses tout à fait nouvelles et qui a provoqué cette espèce de mouvement de sympathie qu'il faut prendre au sens propre. On a mobilisé des masses de gens, non seulement dans les prisons, mais en dehors des prisons, avec les prisonniers, des gens qui, quelquefois, n'étaient pas solidaires des ouvriers, mais qui sont devenus solidaires des prisonniers. Et je crois que là, il y a eu une invention extraordinaire de Foucault, étonnante.
À propos de cette solidarité, moi, je me rappelle une fois, on avait fait une intervention aux usines de Renaud-Billancourt, avec notamment le Théâtre du Soleil qui avait fait une scénette sur la situation des détenus. Et nous avions nos questionnaires. Et tous ceux qui pouvaient avoir des réticences politiques, parce qu'en fait, au niveau de l'expérience de la vie, les gens partageaient la même vie. Les gens qui étaient en prison, les gens qui travaillaient avaient la même, le même horizon, à bien des égards. Mais il y avait ces espèces de petites traditions. Quand ils lisaient les choses extrêmement concrètes que nous essayons de faire sortir des prisons sur la condition de vie, le fait que c'était essentiellement des choses matérielles, et ça, on le retenait quand même de l'enquête Maoïste, eh bien, il y avait une solidarité qui s'établissait. Et ça, c'est vrai, tu avais tout à fait raison, Daniel, de dire que l'enquête d'intolérance, elle avait cette fonction de créer une intolérance en même temps qu'elle en révélait une.
Et c'est ça qui est resté, je crois. Enfin, parmi d'autres choses. C'est quelque chose qui est resté. Aujourd'hui, c'est peut-être plus banal. Mais à l'époque, c'était complètement inédit.
Je pense, Myriam Rovodalon, qu'on peut vraiment dire, à l'écoute de cette expérience, que le GIP et Michel Foucault ont finalement cassé la langue de bois du politique.
Tout à fait. Quand on travaille en général sur, disons, le lien humain, enfin sur le politique dans son acception la plus large, on ne peut pas ne pas rencontrer Michel Foucault et ne pas être très frappé avec cette manière de rompre, effectivement, non seulement avec la langue de bois, mais de rompre aussi avec les schémas les plus conventionnels de la théorie politique, et en particulier avec les schémas conventionnels qui font toujours travailler le politique dans la relation commandement-obéissance, et qui font que schémas qui font que le pouvoir, au fond, c'est toujours assimilé tout simplement à une instance de domination. Alors Foucault est quelqu'un qui, entre autres penseurs qui n'y arrivent pas toujours par les mêmes voies, quelqu'un qui casse complètement ce schéma et qui fait comprendre que le politique n'est pas équivalent à la domination. Même si, très souvent, la domination est la figure la plus apparente ou la plus fréquente sous laquelle se donne le politique.
Daniel Defer, ce n'est pas la dernière intervention politique de Foucault, il en aura tellement d'autres. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ensuite ça s'est dégagé pour lui?
C'est-à-dire que, comme c'est l'action la plus connue, qui a été la plus longue, on a tendance à situer l'intervention politique de Foucault autour de l'histoire des prisons, qui est quand même totalement liée à son intervention. Le mot groupe information prison, c'est lui. L'idée d'une action par l'information, c'est lui. L'idée aussi, je crois, importante, qui nous est pas parue tout de suite, mais qui a eu une grande place dans l'histoire de l'après-mai 68. Rappelez-vous, en mai 68, on a crié dans la rue « Nous sommes tous des Juifs allemands ». C'est-à-dire que nous étions tous tout. Hein, nous voulions tout, nous étions tous tout. Et soudain, Foucault casse un peu l'approche maoïste qui cherchait quand même des prolétaires partout et sous toutes les espèces et fait sortir des détenus. Et puis, il leur demande pas de s'affirmer comme prolétaires, mais de dire simplement que Stevie est intolérable et qu'ils n'ont pas besoin de se réclamer du prolétariat universel pour avoir le droit de le lire, le dire, parce que non seulement la domination, il veut donner à la résistance toute la légitimité, quelle que soit la nature de la résistance et de l'objet auquel on résiste. Donc, déjà, il propose l'émergence du détenu, comme il avait proposé dans l'histoire de la folie, l'émergence du fou. Il propose l'émergence du détenu, puis il va continuer avec Pierre Rivière, il va continuer ensuite le transsexuel avec Herculine Barbin. Enfin, il commence à faire émerger des identités. Et qu'est-ce qu'on va voir apparaître dans les années 70? Les femmes qui revendiquent le fait d'avoir un corps, le fait d'avoir un mouvement, le fait d'avoir des droits de femmes. On va avoir les homosexuels qui vont réclamer les droits en tant qu'homosexuels. On va avoir de plus en plus de mouvements qui vont créer des identités. Or, en plus, ce qui est étonnant, c'est que Foucault a un petit peu engagé cette dynamique-là. En même temps, ce n'était pas du tout quelqu'un qui était attaché aux revendications identitaires, au contraire. Et donc, je crois que le GIP a été un moment tournant. Or, c'est un mouvement aussi où la jeunesse s'est beaucoup retrouvée. Hein. Et donc, ça a été aussi une manière d'être en consonance avec des tas de valeurs morales de la jeunesse qui remettaient en cause des tabous sociaux. Et je crois que les luttes à implication éthique qui mettaient en cause les tabous sociaux, toutes les formes multiples de répression, mises en scène ces répressions par des tas d'acteurs sociaux, ça, c'était quelque chose de tout à fait nouveau, parce que ça faisait surgir comme acteurs politiques et cibles politiques des tas de gens nouveaux. Hein, des travailleurs sociaux ont mis beaucoup de temps à s'en remettre.
Ils ne s'en sont pas remis encore.
Oui, ils ne s'en sont pas remis. Alors, donc, je crois qu'effectivement, on ne peut pas isoler l'action du GIP de l'ensemble des travaux, à la fois l'histoire de la folie, qui est l'histoire aussi d'une parole barrée, dans l'émergence de la rationalité classique et les derniers livres sur la constitution d'une subjectivité et notamment de la place de la sexualité dans la construction de la subjectivité, ben je crois que ces thèmes-là, on sent effectivement comment ils ne sont pas absents dans cette action militante du GIP, puisque je vous ai dit, on y voit l'émergence de la subjectivité, d'une subjectivité nouvelle.
Oui, ça, je trouve ça extrêmement important, ce thème de l'émergence d'une subjectivité qui est déployé surtout dans les derniers textes et qui donne à la question des résistances une forme tout à fait nouvelle et en même temps tout à fait féconde. Et j'ai très souvent pensé que, au fond, une forme de résistance absolument inédite, comme ce qu'on a appelé la dissidence,
qui a beaucoup intéressé
Foucault,
évidemment.
Et enfin,
puisqu'il est allé en Pologne,
etc. Et quand moi j'avais travaillé Patochka, j'avais été sans savoir, je ne savais pas à l'époque, je l'ai appris après, que Foucault avait lu Platon et l'Europe, qu'il aimait beaucoup ce texte, et je m'étais dit, mais c'est quand même extraordinaire, il y a une corrélation inouïe entre la question du soin de l'âme, enfin tel que l'aborde Patochka, et le thème du souci de soi chez Foucault.
Ça, Foucault, la résistance, c'est vrai, c'est quelque chose de très profond. Je dirais que c'était quelque chose de physique chez lui. On l'a vu, il y a eu des tas d'histoires dans les années 70, Foucault est arrêté, Foucault était tabassé, on voyait des affiches à la Sorbonne, que Foucault avait été renversé par police, il y a eu plusieurs fois les arrestations. C'était que Foucault nous le disait toujours, la police a pour fonction d'exercer la violence de l'État. Nous devons pas admettre la prétention qu'elle a de ne pas exercer la violence, d'être là pour établir l'ordre, tout ça. Et il voulait toujours pousser les gens à exercer ce pour quoi ils étaient là, c'est-à-dire exercer la violence. Et ça, c'était une chose extrêmement importante, le devoir de résistance à tout moment. Et je crois que
qui est d'ailleurs la grande tradition de l'école épistémologique française. Ils sont tous morts à la résistance.
Cavaillès,
par exemple.
Tout à fait. Autant le mot d'engagement qui a fait Florès dans l'après-guerre ne l'intéressait pas tellement, autant il rigolait un petit peu sur les philosophes engagés, autant il avait de respect pour les philosophes résistants, comme Cavaillès. Hein.
Jours heureux, sainte allégresse, où Dieu s'est fait ma nourriture. Jours heureux, sainte allégresse, faut-il te voir sitôt finir pour une âme. âme innocente et pure. Jour heureux, jour d'allégresse, faut-il te voir sitôt finir? Faut-il te voir sitôt finir? Faut-il te voir sitôt finir? Faut-il te voir sitôt finir?
En 1973, paraît chez Gallimard un dossier collectif présenté par Michel Foucault autour du mémoire d'un parricide du 19e siècle et intitulé « Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère ». L'histoire de Pierre Rivière sera portée à l'écran par le cinéaste René Alieu.